VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guériac au micro, en direct de Washington DC. Bienvenue à cette édition du jeudi 15 février 2018. À la une ce soir, Cyril Ramaphosa, nouveau président de l'Afrique du Sud, au lendemain de la démission de Jacob Zuma.
Il y a un espoir que Cyril Ramaphosa va non seulement éradiquer la corruption, mais vraiment travailler pour améliorer l'économie du pays.
En Éthiopie aussi, démission surprise du Premier ministre Hailemariam Desalegn. Au Togo, démarrage du dialogue entre le pouvoir et l'opposition après plusieurs mois de manifestations contre le régime de Faure Gnassingbé. Et ici aux États-Unis, nouveau massacre qui a fait 17 morts dans une école en Floride. Le président Trump annonce qu'il se rendra sur place. Dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Au lendemain de la démission de Jacob Zuma, le Parlement sud-africain a élu aujourd'hui, sans surprise, Cyril Ramaphosa pour lui succéder à la présidence du pays. La tâche du nouveau chef de l'État s'annonce difficile. On fait le point avec notre correspondante sur place, Patricia Houon.
Ce n'était plus qu'une formalité après la démission hier soir de Jacob Zuma sous la pression de son parti, l'ANC. Le Parlement a élu aujourd'hui Cyril Ramaphosa à la présidence de l'Afrique du Sud. Il devient le cinquième chef de l'État depuis la fin de l'apartheid et assurera cette fonction jusqu'aux élections nationales prévues l'an prochain. Cette élection du nouveau président fut sans surprise. Il n'y avait pas d'autres candidats. Les principaux partis d'opposition avaient appelé, sans vraiment y croire, à un scrutin national anticipé. Le groupe parlementaire des combattants pour la liberté économique sous l'impulsion de Julius Malema a d'ailleurs quitté l'Assemblée en signe de protestation. Mais avec ou sans le soutien de l'opposition, l'élection de Cyril Ramaphosa a été garantie puisque son parti, l'ANC, jouit de la majorité au Parlement. Demain, Cyril Ramaphosa prononcera le discours sur l'état de la nation, un moment important dans l'agenda du Parlement qui devrait indiquer les grandes lignes des politiques que le nouveau président compte mener. Patricia Huon, Johannesburg, VOA Afrique.
Alors, qui est le nouvel homme fort de l'Afrique du Sud? Un portrait signé Salwa Jafari.
Aujourd'hui, Matamela Cyril Ramaphosa est sous les feux des projecteurs. Issu d'une famille modeste, ce riche homme d'affaires de 65 ans est l'un des héros de la lutte contre l'apartheid. Étudiant en droit, il est emprisonné à plusieurs reprises. Il participe à la fondation du Syndicat National des Mineurs, la plus grande centrale syndicale du pays. 1990, Nelson Mandela sort de prison. Mandela en fait son dauphin. En 1997, l'ANC lui préfère Thabo Mbeki dans la course pour la direction du parti. Sans même faire campagne, Cyril Ramaphosa signe son retour en politique en accédant au poste de vice-président de l'ANC. Jacob Zuma fait appel à lui pour redorer son blason. Dans la course à la présidence, l'homme prend la tête des frondeurs et axe sa campagne sur la lutte contre la corruption. Les Sud-Africains attendent donc de lui qu'il tourne cette page pour sauver le parti de Mandela.
En Éthiopie, le Premier ministre Hailemariam Desalegn a démissionné. L'annonce a été faite par la radio nationale Fana. On fait le point avec Yacouba Ouédraogo.
La radio d'État Fana a indiqué sur son compte Twitter que M. Hailemariam Desalegn a remis sa lettre de démission. Elle a ajouté que cette lettre a été acceptée par la coalition au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. Cette décision doit toutefois être approuvée par le conseil exécutif de la coalition. Ces dernières semaines, les autorités ont libéré des centaines de prisonniers, dont des opposants et des journalistes, et ont abandonné les poursuites à leur encontre. C'était une promesse du Premier ministre Hailemariam Desalegn, qui dit vouloir améliorer le consensus national. En 2015 et 2016, le pays a connu plusieurs manifestations antigouvernementales qui ont fait plus de 900 morts d'après la Commission éthiopienne des droits de l'homme. Les manifestants, principalement Oromo et Amara, protestaient contre ce qu'ils qualifient de surreprésentation de la minorité des Tigréens au pouvoir. Ils réclamaient aussi plus de libertés individuelles.
Après plus de 6 mois de crise marquée par des manifestations, le pouvoir de Lomé et l'opposition se réunissent autour de la table des discussions. Les travaux ont débuté par une rencontre préparatoire sous la médiation ghanéenne et guinéenne. Le point depuis la capitale togolaise avec notre correspondante Kay Lawson.
La réunion préparatoire comptant pour la première étape du dialogue politique a effectivement démarré cet après-midi à Lomé. Le secrétaire général du comité d'action pour le renouveau Car Jean Kissi, le conseiller à la communication de Jean-Pierre Fabre Éric Dupuis et le conseiller spécial d'Achadam Tchikpi, Ouro Dikpa Tchatchikpi, représentent la coalition de l'opposition. Du côté du parti au pouvoir, sont autour de la table le secrétaire exécutif de l'Union pour la République Unie, Akleso Achole, la trésorière générale de Union, Chantal Digboni Tchegan, et le président du mouvement de la jeunesse Union, Malik Nachaba. Le gouvernement représenté par le ministre de la fonction publique Gilbert Bawara et le ministre de l'administration territoriale Payadoa Boupessi. Les discussions tournent autour de l'évaluation des mesures d'apaisement entreprises par le gouvernement depuis des semaines qui ont consisté entre autres à la libération de certains prisonniers politiques. Cette rencontre va aussi déterminer les sujets qui seront inscrits à l'ordre du jour du dialogue proprement dit. C'est en toute confiance que la coalition entame les discussions, a déclaré le chef de file de l'opposition. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, l'opposition demande la mise en place d'une nouvelle commission électorale consensuelle avant les élections municipales et régionales prévues cette année, menaçant de les boycotter. Les deux tendances rivales du Front populaire ivoirien ont trouvé injuste et inacceptable la surreprésentation du pouvoir dans la CEI, l'actuelle commission électorale indépendante, chargée d'organiser les scrutins à venir. République démocratique du Congo, les autorités promettent de renforcer la sécurité en Ituri. Depuis la mi-décembre, les affrontements entre les communautés Ema et Lendu ont fait des dizaines de morts dans cette province du nord-est du pays. Nous ne comprenons pas pourquoi ces tueries, alors que vous avez toujours vécu ensemble, a déclaré le ministre congolais de l'Intérieur. Lors d'échanges avec la population locale, certains ont accusé le gouvernement d'être derrière ces violences afin de retarder la tenue des élections. Ce que dément le gouvernement. Et toujours concernant la RDC, le Conseil norvégien des réfugiés demande une augmentation massive du financement dans des zones de conflit. L'organisation plaide aussi pour un plus grand nombre d'humanitaires alors que le pays compte 4,5 millions de déplacés. Ce qui se passe en RDC est une des pires crises au monde, mais personne ne semble s'en soucier, alors que 13 millions de personnes ont maintenant besoin d'une aide d'urgence, ajoute le NRC. Au Sénégal, la justice réclame plus de 10 millions d'euros de dommages et intérêts au maire de Dakar, Khalifa Sall, et à ses co-accusés. Ils sont jugés pour détournement de fonds publics dans le cadre de la gestion de la mairie. Le Zimbabwe en deuil au lendemain de la mort de Morgan Tsvangirai, chef historique de l'opposition. Il a combattu le régime de l'ex-président Robert Mugabe malgré la répression. Morgan Tsvangirai est décédé hier en Afrique du Sud où il était soigné d'un cancer du côlon à l'âge de 65 ans. Les autorités marocaines annoncent l'arrestation de 3 éléments dangereux ayant fait allégeance au groupe djihadiste État islamique. Elles affirment que l'un d'eux était affilié au Front Polisario et planifiait des attentats au Maroc. Égypte, l'armée estime que les djihadistes cherchent potentiellement à créer un nouveau foyer terroriste dans le Sinaï suite à leur défaite en Syrie et en Irak. Les forces armées ont lancé la semaine dernière une vaste opération baptisée Sinaï 2018, visant notamment la branche égyptienne du groupe État islamique qui multiplie les attaques contre les forces de sécurité dans le Sinaï.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump, au lendemain de l'une des fusillades les plus meurtrières du pays, va se rendre sur place. Un jeune homme de 19 ans a abattu hier 17 personnes dans un lycée en Floride. Retour sur les points forts de l'intervention du président américain avec Anastasie Tudiech.
Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait à Parkland pour, je cite, rencontrer les familles et les forces de l'ordre et continuer à coordonner la réponse fédérale. Le président américain a également promis de s'attaquer au difficile problème des maladies mentales. Dans un tweet ce matin, il avait qualifié le tireur de déséquilibré mental. Il n'a fait aucune référence aux armes à feu alors que le tireur a utilisé une arme semi-automatique. S'adressant à la jeunesse américaine, il a ajouté « Si vous avez besoin d'aide, tournez-vous vers un professeur, un membre de votre famille, un agent de police ou un responsable religieux. Répondez à la haine par l'amour, répondez à la cruauté par la gentillesse. » Il a conclu disant que ce n'est pas suffisant d'agir pour avoir l'impression de changer les choses, il faut vraiment les changer.
En Syrie, 5 Russes ont a priori été tués et plusieurs autres blessés dans des frappes de la coalition menée par les États-Unis la semaine dernière. C'est ce qu'indiquent les autorités russes. Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, appelle la Turquie à se focaliser sur la lutte contre le groupe État islamique. Les tensions avec cet allié de l'OTAN sont au plus haut depuis l'opération militaire turque dans le nord de la Syrie contre des forces kurdes alliés aux États-Unis. Washington n'a jamais donné d'armes lourdes à la principale milice kurde de Syrie, les unités de protection du peuple, a affirmé aujourd'hui à Beyrouth le chef de la diplomatie Rex Tillerson, qui est attendu en Turquie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on enchaîne sur la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le Parlement angolais a adopté mercredi le budget 2018 de l'État, estimé à environ 45,69 milliards de dollars. L'État angolais prévoit pour cette année une croissance économique de l'ordre de 4,9%. Le gouvernement a annoncé la possibilité de revoir les priorités et la nécessité de réduire une dette publique estimée à 38,06 milliards de dollars. La politique de réduction de la dépendance de l'économie par rapport au pétrole devrait permettre de booster la croissance économique. La Suisse vient d'accorder au Tchad un appui de 107 millions de dollars. Ces fonds serviront à renforcer les secteurs de la citoyenneté, l'éducation et l'agriculture de 2018 à 2021. Cet appui se situe dans le cadre du plan national de développement présenté lors de la table ronde de Paris sur le Tchad. Et la bourse de New York évolue en hausse en début de séance jeudi, confirmant le regain d'appétit pour le risque. En dépit du niveau toujours élevé des rendements obligataires, les investisseurs relativisent les tensions inflationnistes. Les craintes liées à une accélération du rythme du resserrement des politiques monétaires semblent s'apaiser et Wall Street évolue en hausse pour la 5e séance d'affilée.
Voilà pour la Minute Éco avec Jean-Roger Billon. Plein feu sur les stades, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir Morgan.
L'Europa League ce jeudi, les matchs des 16e de finale sont en cours.
Et oui Morgan, et l'Olympique de Marseille mène 1-0 au Vélodrome face à Braga, grâce à un but de Valère Germain qui a trouvé le chemin des filets dès la 4e minute. 2-0 pour l'OGC Nice avec un doublé de Mario Balotelli. 2-0 également pour Arsenal devant les Suédois d'Östersund. 2-0 également pour l'Athletic Bilbao face au Sparta de Moscou. 0-0 pour le moment entre Dortmund et l'Atalanta Bergame. Pas de but aussi pour l'instant entre le Milan AC et Ludogorets. La Real Sociedad est menée chez elle par les Red Bulls de Salzbourg 1-0. Un peu plus tard, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann se rendra sur le terrain du FC Copenhague et le Celtic Glasgow recevra le Zénith Saint-Pétersbourg. L'Olympique Lyonnais fera face à Villarreal un peu plus tôt. Le Sporting Club de Lisbonne a supplanté Astana à domicile 3-1.
Et hier soir, le Real Madrid, vainqueur du choc en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain.
Le Paris Saint-Germain qui s'est incliné 1-3 sur le terrain du Real Madrid à match aller des huitièmes de finale. Après avoir ouvert le score, les Parisiens ont été punis par un doublé de Cristiano Ronaldo et un but de Marcelo. Grosse désillusion pour le PSG qui s'était avancé avec l'ambition de frapper un grand coup chez le double tenant du titre.
Liverpool, presque déjà en quart de finale.
Les Reds sont allés s'imposer 5-0 à Porto. À noter que le Sénégalais Sadio Mané a ouvert la marque à la 25e minute avant que l'Égyptien Mohamed Salah ne double la mise pour Liverpool. 4 minutes plus tard, Mané est revenu à la charge et a signé son deuxième but de la soirée, peu avant l'heure de jeu, avant de réaliser le triplé en fin de rencontre. Il est devenu du coup le premier Sénégalais à réaliser un triplé en Ligue des Champions.
Et les Jeux Olympiques d'hiver sont terminés pour Mathilde Amivi Petitjean, très rapidement.
Malheureusement, Morgan, l'unique athlète togolaise engagée dans la compétition est une nouvelle fois passée à côté de sa seconde épreuve, le 10 km libre féminin. Sur un 90 athlètes au départ, Petitjean a terminé sa course à la 83e avec 7 minutes 34 secondes de retard sur la médaille d'or, la Norvégienne Aga.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Diriek en votre compagnie, place au dossier du jour. En Afrique du Sud, le nouveau président Cyril Ramaphosa s'est engagé devant le Parlement à éradiquer la corruption qui mine le pays. Il a été officiellement élu aujourd'hui à la suite de la démission hier soir de Jacob Zuma. Monsieur Ramaphosa donnera son premier discours sur l'état de la nation demain à 17h temps universel. Et pour une analyse, Eric Manirakiza a joint la chercheuse à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria, Liels Louw-Vaudran.
Je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Afrique du Sud. Après 10 ans presque de règne de Jacob Zuma, beaucoup de gens autour de Jacob Zuma ont été accusés de corruption. Et donc, Ramaphosa vraiment mène avec lui un vent d'espoir parmi même l'opposition. Il y a un espoir que Cyril Ramaphosa va non seulement éradiquer la corruption, mais vraiment travailler pour améliorer l'économie du pays, encourager les investissements, redorer le blason d'un pays qui a tous les potentiels. Et sous Nelson Mandela et Thabo Mbeki, qui étaient vraiment sur des bons rails. Mais ça ne va pas être une tâche facile du tout, parce que il y a des problèmes structurels dans l'économie sud-africaine. Il y a le chômage, il y a des problèmes dans le secteur minier, chômage des jeunes. Aussi, on a un grand problème dans notre système d'éducation qui sont profondes et qui vont être très difficiles à améliorer sur le court terme. Mais au moins, aujourd'hui, tout de suite, la bourse de Johannesburg a explosé aujourd'hui. Le rand de la monnaie a gagné en valeur. Au moins, il y a un espoir de nouvelle époque.
Ramaphosa, il était vice-président de Jacob Zuma. Comment peut-on percevoir ce changement comme un renouveau?
Ça, c'est une question que on pose souvent, mais lui-même personnellement n'a jamais été accusé de corruption. Il n'est pas du tout impliqué dans des scandales autour de Jacob Zuma. Donc, on va voir dans les prochains jours. Beaucoup d'analystes pensent qu'il y aura un nouveau gouvernement avec plusieurs nouveaux ministres. Donc, Cyril Ramaphosa va être obligé de nettoyer un peu autour de lui dans les rangs de l'ANC et mettre ses hommes et ses femmes qui sont de son camp au gouvernement. Sinon, ça ne va jamais marcher parce que ça va être une équipe divisée, profondément divisée d'ailleurs.
Quelle leçon faut-il tirer?
La démocratie est unique et le système gouvernemental électoral est aussi unique. Et je pense qu'on va beaucoup réfléchir sur ce système. Vous voyez, c'est pas un système présidentiel, donc nous n'avons pas des élections présidentielles. Tout repose sur le parti et quelque part, le pays tout entier est parfois pris en otage par le parti au pouvoir.
Liels Louw-Vaudran, chercheuse à l'Institut d'études de sécurité à Pretoria.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est sur fond de manifestations anti-gouvernementales que Hailemariam Desalegn, Premier ministre d'Éthiopie, a présenté sa démission. Et Kabadou a joint à Paris Roland Marchal, chercheur spécialiste de la Corne de l'Afrique.
Il est quelqu'un qui a grandi dans l'ombre du principal dirigeant. Il fait l'effet plutôt d'un technocrate plutôt que d'un politique. Et surtout, il n'est pas originaire de cette génération qui s'est battue contre le régime précédent. Il appartient également à un groupe ethnique dans le sud-ouest du pays qui est considéré comme marginal par rapport aux grands groupes ethniques que sont les Amaras, les Oromos et puis politiquement évidemment les Tigréens. Et lui-même a un contrôle relatif de l'appareil de sécurité. Alors comment faut-il comprendre sa démission? Je crois qu'il y a aujourd'hui une reconnaissance assez large au sein des cercles du pouvoir éthiopien qu'il va falloir faire des réformes d'ampleur que de toute façon, la répression, ça ne pourra plus fonctionner très longtemps. Le coût humain est énorme. L'aura dont bénéficiait l'Éthiopie dans la communauté internationale s'est considérablement réduit à cause des dizaines de milliers d'emprisonnements et des centaines, sans doute des milliers de morts dues à la répression. Il apparaît donc très clairement dans le camp des gens qui veulent plutôt une ouverture.
Il y a eu énormément de libérations, de centaines de prisonniers. Comment du coup interpréter cette issue ?
Elles ne sont pas totales, contrairement à ce qui avait été annoncé immédiatement. C'est un peu à reculons. Les manifestations continuent, la répression continue. Il ne faut pas penser que c'est le printemps éthiopien. C'est une chose de libérer des blogueurs célèbres ou le dirigeant d'un parti politique d'opposition. C'en est une autre de laisser ces blogueurs et ces partis politiques opérer, suivant la Constitution, évidemment, légalement. Enfin, il faut quand même se rendre compte que l'ère de Staline est révolue. Cette ère-là doit être révolue partout dans le monde et pas simplement en Corée du Nord.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement va essayer d'introduire toute la diversité éthiopienne ?
Il y a beaucoup de réticences. C'est un pouvoir qui règne sur l'Éthiopie depuis 2011 de façon incontestée, qui se rend compte que finalement, il va être obligé de faire des réformes. Tout ça n'est pas accepté très, très facilement. Et on voit la télévision d'État commence à tout d'un coup rendre compte de manifestations. Alors, elle montre des images qu'elle n'a jamais montrées dans les 27 ans de pouvoir. On voit qu'il y a des choses qui se passent, ça reste trop timoré. Les déguisements des contradictions à l'intérieur du régime va se poursuivre dans les mois qui viennent. En sortant du jeu maintenant, le Premier ministre se donne peut-être les moyens de rentrer plus tard par la grande porte à nouveau dans ce qui serait un régime de transition en Éthiopie.
Roland Marchal, chercheur et spécialiste de la Corne de l'Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Nigeria, le déploiement de l'armée a débuté hier dans les états du centre du pays pour mettre fin aux violences entre agriculteurs et éleveurs. L'objectif est aussi d'enrayer les attaques de milices armées contre les populations, en particulier dans les états de Benue, Taraba et Nassarawa, états qui ont connu une escalade de la violence ces dernières semaines. Le point avec notre correspondant à Abuja, Gilbert Tomba.
Le Nigeria fait face depuis plusieurs années à une insurrection sanglante de Boko Haram dans le nord-est, du militantisme dans le delta du Niger, de l'enlèvement d'étrangers et des agitations du mouvement Biafra. L'armée est maintenant mobilisée pour mettre un terme aux affrontements entre agriculteurs et éleveurs peuls dans les états du centre du pays. Pour Awal Moussa Rafsanjani, activiste des droits humains, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent ces violences.
Je pense que cette affaire des éleveurs est devenue comme une plateforme ou un moyen derrière lequel se cachent certaines bandes criminelles pour perpétrer leurs crimes, parce que, comme on le dit, les agriculteurs et les éleveurs ont toujours cohabité, ils ont eu des problèmes et des désaccords, mais cela n'a jamais été dans la violence.
En plus de la crise entre agriculteurs et éleveurs, l'envoi de soldats doit également permettre de lutter contre le banditisme armé dans d'autres états comme Kaduna. Le général David Amadou est chargé des opérations d'entraînement de l'armée nigérienne.
Il y a également des cas de banditisme, d'enlèvement. Il y a le problème des éleveurs à Kaduna. Il y a d'autres crimes dans l'état de Kogi. De même que les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, il y a des attaques contre les innocents dans les communautés, en particulier dans les états de Benue, Taraba et Nassarawa par des milices armées.
Si l'armée n'a pas précisé les effectifs militaires qui doivent être déployés dans le centre du pays, les Nigériens réagissent différemment à la décision du gouvernement.
Mais les éleveurs tuent et le président ne dit rien. Cela n'est pas juste. Je suis vraiment déçu de l'attitude du gouvernement. Mais je salue la décision de déployer les militaires. Ces soldats doivent être proactifs et éviter le racisme et les considérations religieuses. Qu'ils rejettent le népotisme et le système du tribalisme, mais qu'ils travaillent pour tout le monde.
as individuals.
Je pense que ce n'est pas la meilleure idée de déployer les soldats, mais de toutes les façons, nous avons besoin de la paix partout dans le pays, parce que les exécutions sont devenues récurrentes, et cela est très clair.
Des centaines de personnes ont été tuées dans des violences intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs depuis le début de l'année, dont le seul état de Benue étant le plus affecté, où un enterrement de masse a été organisé pour 73 personnes tuées dans ces violences en janvier dernier. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au lendemain de la nouvelle fusillade dans un lycée de Floride hier, qui a fait 17 victimes, le débat sur le contrôle des armes à feu est relancé aux États-Unis. La détention d'armes à feu est garantie par le deuxième amendement de la Constitution américaine. Une réforme va-t-elle finir par voir le jour? C'est la question que Claire Morin-Gibourg a posée au consultant politique René Lake.
Vous savez, c'est une question à chaque fusillade. Chaque fois qu'il y a un problème de cette nature, c'est la question qui revient à l'ordre du jour. C'est la question qui est posée par tout le monde. Mais malheureusement, on a peu de réponses positives, peu de réactions même positives. J'ai vu que ce matin, Marco Rubio, le républicain sénateur de Floride, lui-même disait « Oh, écoutez, ce n'est pas le moment de poser ce débat-là ». Donc, chaque fois qu'il y a une fusillade de ce type-là, les républicains considèrent qu'au fond, ce n'est pas le moment de parler de la question du contrôle des armes. Et la réponse de l'autre côté, du côté des démocrates, c'est de dire « Mais écoutez, pour les républicains, ce n'est jamais le moment ». Alors, je peux vous dire que, regardez, rien qu'en 2018, il y a eu, c'est la 18e fusillade de cette nature. Ça veut dire qu'on a 18 fusillades en 6 semaines. Parce qu'en 2018, il n'y a eu que 6 semaines. Ça fait donc 3 fusillades par semaine. Une toutes les 60 heures. C'est absolument ahurissant. Et malgré tout cela, ça ne bouge pas, le débat n'est... Les républicains n'acceptent même pas de poser le débat. Donc, il est très difficile d'avancer sur cette question.
Alors, quels sont les blocages majeurs?
Je crois que, vous savez, il y a deux problèmes. D'abord, il y a un problème politique. La NRA, la National Rifle Association, qui est l'Association nationale des utilisateurs d'armes à feu ici aux États-Unis, est une organisation extrêmement puissante qui finance énormément les activités politiques des gens qui sont favorables, justement, à un minimum de contrôle, à pratiquement à une absence de contrôle, on pourrait dire, des armes à feu aux États-Unis, donc en général des républicains, parfois même un peu extrémistes. Et donc ils soutiennent ces campagnes-là, ils les soutiennent financièrement. La NRA est extrêmement puissante, a énormément de moyens financiers. Donc même sur des questions, par exemple la question du background check, les enquêtes préliminaires avant de pouvoir acheter des armes, 90% de la population aux États-Unis soutient cela. Mais comme la NRA ne le soutient pas, les républicains, même cette une décision aussi simple, ne sont pas prêts à l'accepter, ne sont pas prêts à pousser pour faire en sorte que des réformes législatives puissent permettre d'en arriver à cela. Donc au plan politique, la NRA est tellement puissante et tellement forte que cela fait un peu peur, cela empêche beaucoup de républicains de prendre position, y compris sur des questions aussi banales et aussi simples que des enquêtes préliminaires.
Voilà, René Lick, consultant politique. Vous pourrez écouter cette interview en intégralité sur notre site voaafrique.com.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Diamonds up and down my chain. Uh-huh. Cardi B, straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass, got all them boys cooked. Huh. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno Stang, tell me while I do my money dance. Like, hey.
Voilà, on termine en musique avec Bruno Mars, Finest.
Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. All night long. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you.
Voilà, c'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Sims Lumami, à la console Nashwan Kale, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos. Vous pouvez commenter des sujets, poser des questions. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24/24. Au revoir.